Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Shalom Bourgogne pour ce cinquième numéro de J'ai rendez-vous avec vous. Ce soir, j'ai l'immense plaisir et privilège d'accueillir une femme à la fois auteure, chroniqueuse de presse et journaliste gastronomique. De nationalité belge, elle est née à Léopoldville, aujourd'hui rebaptisée Kinshasa. Elle vit à Lyon et est la sœur d'Amélie Nothomb, que nous avons eu le plaisir d'accueillir à la librairie Grangier à Dijon pour son dernier roman « Tant mieux » le 21 janvier dernier. Alors peut-on rêver mieux que d'être la sœur d'une brillante romancière qui vous aime plus que tout, et il me semble que c'est réciproque. Bonsoir Juliette Nothomb.
Bonsoir Frédéric.
Alors un grand merci à vous d'avoir accepté mon invitation, vraiment du fond du cœur.
C'est tout le plaisir est pour moi.
Chère Juliette, vous écrivez des romans jeunesse et des livres documentaires qui nous mettront forcément l'eau à la bouche, puisque la cuisine et la pâtisserie sont parmi vos sujets favoris. L'équitation et le cheval sont en outre des passions que vous faites vivre à travers vos romans et vos essais. En disant cela, je pense à la vraie histoire de la femme sans tête, Mémoire d'une jument ou encore Éloge du cheval. Vous êtes la fille d'un diplomate et d'une mère aimante dont le parcours de vie est sensationnel, comme cela est raconté dans le roman « Tant mieux ». Juliette Nothomb, vous êtes née en République démocratique du Congo. Votre famille a beaucoup voyagé, et vous aussi. Mais quels sont les pays traversés qui vous ont le plus marqué et dont vous gardez en fait les meilleurs souvenirs? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette période de votre vie?
J'ai été très marquée par chacun des pays où j'ai vécu, mais marquée de manière différente. Je suis née au Congo, là malheureusement j'étais trop petite, je n'en ai aucun souvenir. Mais après, mon père a été nommé à Montréal pour être commissaire d'exposition internationale, universelle plutôt. Et là, j'étais une petite enfant de 3-4 ans, et là j'ai quand même quelques souvenirs très précis. Alors évidemment, les souvenirs d'enfants sont toujours très difficiles à identifier parce qu'ils sont conditionnés par les photos que l'on regarde par après. Et parfois, on croit avoir vécu un souvenir tellement on a vu telle photo dans un album. Vous dire que je l'ai vraiment vécu, il y en a quelques-uns dont je suis sûre, d'autres moins. Mais le Canada m'a marqué forcément par la neige, premier souvenir, et par la beauté, parce que c'est un pays de lacs. Et bon, on vivait en ville, mais la ville de Montréal est une ville très verte, avec un énorme parc public qui s'appelle le Mont-Royal. Et là, j'ai des souvenirs assez nets du Mont-Royal où nous allions souvent nous promener avec ma mère et mon frère. Des souvenirs de froid, des souvenirs de beaucoup de lacs, de rivières, de forêts et de baignades dans l'eau des lacs canadiens. Donc voilà, parce qu'on y a passé quand même un été. Le séjour était très court, mais ces souvenirs m'ont beaucoup marqué et ils m'auront beaucoup marqué par la suite parce que dans tous les pays où je suis allée, j'ai été notamment été dans l'enseignement anglophone. Et l'enseignement anglophone est très branché sur certains romans phares, comme aussi en français. Le roman phare qui vraiment berce tous les petits-enfants anglophones, c'est La petite maison dans la prairie.
Ah oui, bien sûr.
Et forcément, quand on parle de petite maison dans la prairie, moi, le paysage des lacs et des forêts, il était déjà imprimé dans ma tête, avant même que je découvre beaucoup plus tard l'Amérique, parce que j'avais eu cette connaissance du Canada. Ce qui fait que ça fait déjà comme un copier-coller de souvenirs ou de souvenirs à l'avance, puisque je n'étais pas encore allée en Amérique, mais j'avais déjà le paysage en tête. Et c'est pour ça que ce roman m'avait très très fort marqué quand par la suite, après le Canada, nous sommes partis au Japon, où j'étais déjà, à la différence d'Amélie qui est née, qui a passé une première année sans beaucoup de souvenirs, moi, le jour de mon arrivée au Japon, j'avais déjà l'âge d'avoir des souvenirs. Ce qui fait que, paradoxalement, même si j'ai beaucoup moins parlé du Japon qu'Amélie, j'en ai des souvenirs plus longs en termes de durée. Alors plus précis certainement pas, plus culturel certainement pas, puisqu'Amélie en plus y a vécu à l'âge adulte. Mais mon Japon d'enfance a été plus long en termes d'années et de mois de conscience enfantine que ne l'a été Amélie.
Et en termes d'importance, vous le placez au même niveau que le Canada ou c'est quelque chose de différent?
C'est tellement différent, ce serait comparer une pomme et une banane. Voilà. Si ce n'est que oui, ce sont deux pays très beaux, mais déjà séparés par la langue. Au Canada, c'était le Québec, donc c'était le français. Et puis là, nous arrivons dans un pays où on parlait à l'époque japonais, japonais et japonais. Aujourd'hui, le Japon est très internationalisé, mais malgré tout, l'anglais reste une langue très utilisée au Japon, mais on parle encore énormément japonais, tout simplement parce que physiologiquement, ce sont deux langues qui sont de prononciation très 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 différentes. C'est pas comme un espagnol qui va en Italie, c'est des langues romanes, on se débrouille, etc. Mais entre le japonais et l'anglais, il n'y a carrément pas de point commun du tout. Si ce n'est quelques mots japonais, quelques mots anglais empruntés au japonais. Quand un mot n'existe pas en japonais, on le prend à l'anglais ou au français ou au pays d'origine.
J'imagine que vous avez appris le japonais.
Eh bien, j'aurais voulu, mais j'étais déjà, entre guillemets, trop vieille pour aller à la maternelle japonaise, où ma sœur est allée et où elle a pu apprendre le japonais. On m'a tout de suite mise en système américain. Donc, j'ai appris l'anglais en 3 mois, parce qu'évidemment, rien n'est plus facile quand on est un enfant d'être en immersion totale. J'ai eu cette chance d'apprendre l'anglais sans le moindre effort. Mais malheureusement, le japonais, je n'ai jamais pu l'apprendre parce qu'on avait des cours de japonais à notre école américaine. Mais pour une raison mystérieuse, ils m'ont mise dans un niveau trop fort pour moi. Ce qui fait que j'ai toujours été débordée et je n'ai jamais pu rattraper mon retard.
Et vous réussissiez à vous débrouiller avec l'anglais, au fond?
Oui, en anglais. C'est-à-dire que les cours étaient donnés en anglais. Le japonais, c'était pour le Japon. On était trop petits pour se promener tout seul au Japon. Donc, c'était nos parents qui nous faisaient voyager, qui se débrouillaient. Mon père parlait très bien japonais, ma mère se débrouillait. Donc, on était sauvés par ça.
Et un troisième pays qui vous aurait marqué aussi?
Eh bien, juste après le Japon, on est allé à Pékin, en pleine révolution culturelle, sous Mao et sous sa sinistre bande des quatre, donc Madame Mao et trois autres sbires. C'était une des pires périodes du maoïsme, pur et dur, où la culture n'avait pas droit de citer, mais même la liberté n'avait pas droit de citer. Si nous parlions à des étrangers, cet étranger était déporté tout de suite. Donc c'était terrifiant et on en était conscient. Moi j'avais 8 et 9 ans, mais malgré tout nos parents nous ont expliqué la situation. Donc on savait très bien que ces gens n'étaient pas libres, ni libres de parler, ni libres de leur mouvement, ni de leur vie, ni rien du tout. C'était la pleine époque où les enfants dénonçaient leurs parents dans les écoles. On les encourageait parce que la famille avait été annihilée au profit de la nation. Donc c'était effrayant. Alors il y avait pour nous, enfants, il y avait des petites exceptions. Nous vivions dans des ghettos, mais ghettos entre guillemets, parce que c'était des ghettos pour étrangers, qui étaient d'un grand luxe par rapport aux habitations des Chinois. Mais malgré tout, on n'était pas libres de nos mouvements. Si on voulait se promener dans la ville, on pouvait, mais on ne pouvait pas sortir de la ville sans autorisation préalable. Et surtout, même avec l'autorisation, il y avait toujours un espion derrière, déguisé en berger, déguisé en motard, déguisé en n'importe quoi. Mais on savait, il y avait toujours quelqu'un derrière nous, il suffisait de se retourner, on voyait une voiture, non, parce que c'était très pauvre, mais il y avait toujours une moto, un cavalier, n'importe, pour voir si on ne faisait rien de contre-révolutionnaire.
Vous qui avez une culture extraordinaire, en tout cas, j'en ai entendu parler, Juliette, comment pourriez-vous comparer la France sous Vichy et cette Chine de Mao que vous nous décrivez là?
Oh, à part la langue, il n'y avait pas beaucoup de différence. C'est-à-dire que c'est l'époque des dénonciations, du totalitarisme, d'un certain racisme aussi, mais là, le racisme est tout simplement endémique aux Chinois et aux Asiatiques, qui sont toujours très racistes envers les Blancs, et envers les Blancs et envers toutes les autres populations qui ne sont pas asiatiques. Alors, évidemment, en période de communisme, les choses comme le racisme sont beaucoup moins marquées. Que quand c'est l'extrême droite. L'extrême gauche se targue de n'être pas raciste.
Oui.
Moi, j'étais aussi petite, je l'ai moins ressenti. Ceci dit, les Chinois n'avaient pas le droit de nous parler. Alors, c'était un racisme politique davantage que racisme racial. Mais malgré tout, je voyais bien qu'on nous regardait avec une extrême méfiance parce qu'on aurait pu instiller dans l'esprit des Chinois une idée que peut-être que la vie ailleurs n'était pas si pourri que ça, parce qu'on leur disait que la Chine était un paradis, que c'était le seul pays où on était libre et qu'ailleurs, les gens vivaient sous le joug du totalitarisme et de l'extrême droite, ce qui n'est pas faux, mais je veux dire, c'était quand même très biaisé. Donc, parlant de racisme, je ne l'ai pas ressenti comme tel, si ce n'est peut-être entre nous, parce que les seuls étrangers qui étaient là étaient des diplomates. D'accord. Alors, nous étions tous des enfants et on sait très bien que les enfants, si on ne les maîtrise pas un peu, sont très facilement racistes.
Nous allons évoquer un tout autre sujet, encore que tout est lié. Donc, je parlais des livres que vous avez écrits, hein, des nombreux livres et essais que vous avez écrits, romans. Chère Juliette, comment définissez-vous l'écriture? Si je vous demandais de donner une définition de l'écriture, et si vous deviez l'associer, par exemple, à des mots, à des musiques, à des couleurs?
Ben, je vais tout simplement dire modestement que je vais vous parler de ma conception à moi, de mon écriture, parce qu'il y a autant d'écritures que de personnes, même les gens qui ne sont pas écrivains, tout le monde écrit, enfin, les gens qui ont la chance d'être alphabétisés écrivent. Pour moi, c'est un acte solitaire, même si je suis quelqu'un de pas du tout, je ne suis pas un ermite. Mais voilà, pour écrire, je me vois mal dans une foule, sauf si c'est une foule d'inconnus, où je peux me mettre dans une bulle. Mais c'est sûr que l'écriture est plus facile, seule chez soi, à la limite dans un petit café où il fait tranquille, où personne ne vous parle, parce que c'est quelque chose qui demande une grande concentration. Maintenant, je sais que d'autres personnes préfèrent être grandement entourées pour écrire, ou que le bruit ne les dérange pas, que la musique les encourage à écrire. Moi, ce sera le silence et aucune autre distraction. Donc, voilà. Boire, oui, mais pas manger, pas fumer, par exemple.
Même pas écouter de la musique.
Surtout pas.
Vraiment, sauf si, le grand silence.
Sauf si c'est de la musique, comme on dit, de la musique d'ambiance. Mais c'est péjoratif. Moi, je trouve que qualifier une musique d'ascenseur ou d'ambiance, c'est très, très insultant pour le compositeur. Toute musique mérite d'être écoutée et d'être écoutée exclusivement et pas en faisant autre chose, comme certains regarder leur smartphone ou bavarder, etc. Pour moi, une musique, c'est un art à part entière qu'il faut respecter et écouter en ne faisant rien d'autre.
Et comme nous allons bientôt parler de la vraie histoire de la femme sans tête, j'oserais une métaphore. Est-ce que vous écrivez au fil de l'eau? Ou alors est-ce que vous préférez structurer vos récits à l'avance et que tout soit bien cadré? Ou est-ce que vos idées viennent comme ça sur le papier au fur et à mesure de l'écriture?
Ben, je vais vous dire un peu de tout. Il y a une partie qui est programmée, mais il y a une autre qui arrive parfois toute seule. Au fil de l'écriture, comme vous dites, au fil de l'eau, tout d'un coup, des idées viennent se greffer, auxquelles je n'avais pas du tout pensé et que je n'avais très souvent pas prévues. Et la plupart de mes romans, je ne savais pas comment ils allaient se terminer. Ça a été le cas de La femme sans tête. La femme sans tête, elle est partie d'une boutade, j'habite à Lyon, mais aussi j'habite dans le sud de la Belgique, où je vais très souvent, et forcément je prends la fameuse autoroute du soleil, qui passe par Dijon, qui passe par Arc-sur-Tille, et à Arc-sur-Tille, il y a quoi? Il y a un petit panneau qui indique la femme sans tête avec le petit logo de Petite Rivière. Et je me suis toujours demandé avec amusement pourquoi une rivière portait un nom pareil. Mmh. Et la femme sans tête, il doit y avoir une raison, une histoire, et forcément j'ai fait comme tout le monde, j'ai été chercher sur Internet, et je n'ai rien trouvé si ce n'est qu'on disait qu'au XIXe siècle, cette rivière, enfin ce ruisseau plutôt, avait été voûté. Et en effet, de l'autoroute, en même temps, quand on conduit, on ne peut pas regarder sur le côté.
Pas trop quand même, oui.
Mais même, on ne la voit pas. Donc je me suis dit, soit elle est toute petite, soit en effet, elle est voûtée. Mais pourquoi l'annonce-t-on alors? De quoi bien distraire les conducteurs? Mais je me suis sentie en même temps une certaine liberté, puisqu'il n'y avait pas d'explication de raison pour laquelle on donne un titre aussi ronflant à un ruisseau minuscule. L'histoire, je vais l'inventer. Et tout est parti de là. Pourquoi cette rivière s'appelle-t-elle la femme sans tête? Mais je ne savais pas du tout où j'allais. C'est vraiment venu... Là, c'était paragraphe par paragraphe que ça s'est dessiné.
D'accord. Qu'est-ce que l'écriture vous apporte, Juliette?
Ça vous plonge dans une espèce d'extase et de cerveau qui bourdonne comme ça. Alors, il faut faire très, très, très attention, justement, quand on écrit. Parce que cette extase peut être dangereuse, pas du tout physiquement, mais parce qu'on croit que ce qu'on fait est génial. Et puis on se relit après, parce que c'est vrai que ça plonge dans un enthousiasme fantastique. Et alors on dit « Ah, c'est bien ce que tu écris », etc. Et puis on se relit quand la tête est reposée et refroidie. Et on se dit « Eh ben, tu trouvais ça génial, eh ben, ma pauvre fille. » Donc heureusement qu'on se relit. Voilà, mais moi je fonctionne comme ça. D'autres personnes vont fonctionner... comme un accouchement, donc ça va être très pénible, ils vont pas du tout avoir ce plaisir et cette extase, mais ils vont vous sortir un travail qui est déjà léché, bichonné, structuré d'avance et qui n'aura pas besoin d'être relu, d'être remanié. Voilà, et il n'y a pas de meilleure manière, il y a juste la manière de chacun.
Et comme vous parliez d'extase, et je vous interrogeais sur les couleurs que vous pourriez associer à l'écriture, vous diriez plutôt des couleurs vives alors?
Des couleurs vives, et puis ça dépend du sujet que je traite. Bon, moi je suis une personne verte, j'adore le vert, parce
j'ai
que c'est quoi
comprendre.
C'est le vert de la nature, c'est le vert des forêts, et puis c'est une couleur que je trouve belle en soi. Voilà. Mais ce n'est pas du tout, voilà, il n'y a pas d'autre raison, ni héraldique, ni symbolique. Je sais que le vert a fait l'étude de beaucoup de... Puis il y a le grand philosophe Michel Pastoureau qui a écrit sur chaque couleur. Je ne sais pas s'il a écrit un livre sur le vert, mais il a écrit le jaune, le rose, etc., qui sont tous autant de chefs-d'œuvre. Donc moi, je ne vais pas faire ma Juliette Pastourette, j'y connais rien du tout, mais j'aime le vert pour ce qu'il est.
Très bien. Nous terminerons par l'écriture sur cette question. Est-ce que vous avez des moments privilégiés d'écriture dans la journée?
Ça sera plutôt le matin.
D'accord.
Parce que, tout simplement, matériellement, il fait beaucoup plus tranquille le matin. Mais il m'arrive parfois, en soirée, d'avoir tout d'un coup un regain d'énergie. Et après la période, vous savez, l'attente de... qui frappe tous les êtres humains autant que les animaux. Donc, entre 14 et 16, il est reconnu qu'aucun animal ni être humain n'est très performant, ni physiquement, ni intellectuellement.
C'est l'heure de la sieste.
D'où les pays de la sieste, ou qui ont bien raison, parce que c'est vrai qu'on ne produit rien de bon à ces heures-là. Mais après, c'est vrai que tout d'un coup, souvent en fin de soirée, en début de soirée, on peut avoir des moments d'énergie où l'inspiration vient, et à ce moment-là, j'en profite pour écrire aussi. Mais ce n'est jamais ni programmé, ni obligatoire, voilà.
Vous avez une vie trépidante, Juliette. Vous êtes journaliste gastronomique, autrice de livres et chroniqueuse de presse. Quel équilibre trouvez-vous entre toutes ces activités? Et puis, à vos yeux, laquelle aurait le plus d'importance?
C'est difficile. Je vais dire que pour mon métier de base, financièrement, c'est l'écriture gastronomique qui, évidemment, qui compte, puisque c'est une chronique régulière que je tiens toutes les semaines de toute l'année. Il n'y a pas de semaine de congé. Chronique culinaire pour un magazine de télé belge qui a un grand lectorat, donc qui fait que j'ai quand même pas mal de lecteurs. Donc oui, ça m'occupe évidemment chaque semaine, parce que là, ce n'est pas un choix, je dois remettre mon texte chaque semaine. Donc à ce moment-là, c'est teinté d'obligation, mais c'est une obligation qui me passionne tellement que ça reste un plaisir. Tandis que l'écriture de romans, ça, c'est parfois des commandes qui ont parfois des dates butoirs, mais c'est aussi parfois un travail que je fais de mon propre chef et qui, évidemment, ne tient compte d'aucun délai ni d'aucune obligation, ce qui donne à la fois une grande liberté, mais aussi qui donne une grande liberté à la paresse. Parce que si d'un jour je ne veux pas écrire, je me donnerai l'absolution, ce qui ne sera pas le cas pour quand un texte est attendu obligatoirement tel jour, telle heure.
Très bien. Vous me parliez de gastronomie et votre sœur Amélie vous décrit comme un véritable cordon bleu. Mmh. Alors quand on l'écoute, quand on la regarde sur des vidéos, elle dit que être à votre table rime avec délice. Mais alors, chère Juliette, d'où vous vient cette passion de cuisiner?
Quand on était très petit, et là je vous reparle du Japon parce que c'est à ce moment-là que j'en ai vraiment été consciente, j'étais encore en maternelle, donc j'avais un horaire très élastique, plutôt très léger. Nous n'avions cours que le matin. Mmh. Et puis maman venait me rechercher à l'école à midi, et j'avais tout l'après-midi avec ma mère. Ce qui fait que, quand mes parents recevaient, ce qui fait grandement partie du métier de diplomate, il ne faut pas imaginer qu'un diplomate, c'est quelqu'un qui vit avec une armée de domestiques. Ça, c'est un ambassadeur en fin de carrière, qui est dans des postes prestigieux, mais le diplomate, lambda, qui commence sa carrière, comme c'était le cas de mon père, qui n'était qu'un petit trentenaire, il fait tout lui-même. Ma maman avait juste une petite nounou qui était la fameuse nounou d'Amélie et qui l'aidait dans la vie de tous les jours, notamment pour le ménage, la lessive et tout. Mais la cuisine, c'est ma mère qui la faisait. Et quand mes parents recevaient parfois 10, 12 personnes, ma mère faisait toute la cuisine de A à Z. Alors, elle faisait de la cuisine bourgeoise, mais de la bonne cuisine bourgeoise, parce que ma mère elle-même avait été élevée par des parents très gourmets, très gourmands, qui eux-mêmes avaient eu des parents très gourmands. Donc il y a une tradition de gourmandise dans la famille, mais pas que, parce que c'est aussi le fait que quand on reçoit, il ne faut pas se moquer de la personne qu'on reçoit, il faut lui faire honneur en ne lui servant pas la cuisine de tous les jours. Il faut lui montrer qu'on a fait un effort culinaire pour elle.
Savoir être original.
Original, mais surtout pas nécessairement original, parce que l'originalité à l'époque dans la cuisine bourgeoise, ça n'a pas vraiment de mise. Mmh. Simplement montrer, c'est un jour, un plat de fête. Mmh. Même si c'est le poulet du dimanche, ça reste un plat de fête. Mmh. Ça n'est pas être le rôti de porc petit pois du mardi ou le rôti de bœuf haricot vert du mercredi, etc. C'était, voilà, il y avait une notion d'éclat festif. Par exemple, ma maman faisait aussi beaucoup de cuisine belge traditionnelle, ce qui impressionne évidemment beaucoup, aussi bien les Japonais qui faisaient partie de nos invités que des diplomates étrangers d'autres pays. Donc ma maman faisait des plats traditionnels comme le waterzooi, cette soupe de poulet ou de poisson belge, aussi bien les carbonades flamandes. Mais elle faisait aussi des plats français traditionnels, elle faisait du chaud-froid de volaille, ce qui ne se fait plus guère aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est un plat qu'on devrait remettre à la mode, surtout en été, parce que c'est quand même très très raffiné, pas facile à faire. Oui. Et puis comme dessert, elle faisait évidemment, en tant que belge, on faisait de la mousse au chocolat. Et moi j'étais la commise pour battre les blancs en neige et pour nettoyer le plat quand c'était... Quand on avait mis le plat dans la mousse dans les raviers, il fallait que moi je fasse la vaisselle du saladier de mousse au chocolat, tâche dont je m'acquittais très bien.
Et oui, et vous léchiez peut-être un petit peu aussi au passage, évidemment. Et donc, d'accord, c'est une histoire de génération, la passion pour la cuisine. Et donc, si j'ai bien compris, plutôt du côté de votre maman. Et vous avez...
Mais mon papa était très gourmand aussi. Et chez lui, ça, c'était sa grand-mère, parce que mon père était un orphelin de père. Mm-hmm. Il a été élevé par une mère, mais une mère un petit peu absente. C'était une bonne mère, mais elle ne s'est pas beaucoup occupée de lui, mais il a été élevé par des grands-parents. Et donc par une grand-mère non seulement très gourmande, très gourmette, qui cuisinait énormément, qui cuisinait très riche et qui poussait son petit-fils à manger. Parce que pour lui, c'était manger, c'est bien. Donc mon père a toujours eu des problèmes de ligne toute sa vie, parce que dans sa tête, pour être un bon petit garçon, il faut beaucoup manger.
Alors, nous allons revenir à cette histoire de fleuve dont vous parliez lors de vos escapades en Bourgogne et notamment en passant sur l'autoroute. La vraie histoire de la femme sans tête. Alors, pour préparer cette rencontre, j'ai lu évidemment deux de vos romans, La vraie histoire de la femme sans tête et Mémoire d'une jument. Et j'ai trouvé plusieurs points communs entre ces deux livres. La présence d'un cheval, d'abord, dans les deux récits. Et puis un intérêt manifeste pour l'histoire avec un grand H. Mmh. Et puis beaucoup d'humour aussi, chère Juliette. Mais posons le décor de la vraie histoire de la femme sans tête. Nous sommes au 19e siècle et tout commence par une recherche, une quête, celle d'un jeune homme employé des eaux et forêts de son métier, accompagné d'un cheval. Et il s'interroge sur les origines du nom de la rivière La femme sans tête, comme vous d'ailleurs. Et au bord de laquelle il aime tant flâner et prendre son pique-nique. Alors il mène son enquête au village d'Is-sur-Tille, en Côte d'Or, et alors là, il recueille des explications toutes aussi fantaisistes les unes que les autres. Puis arrive le surnaturel, la rencontre avec une carpe qui parle, un brochet anglais et une faune aquatique surprenante et, je dirais même, détonnante. Voilà le lecteur qui est plongé dans une ambiance étrange, allégorique, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qui se trame derrière cette intrigue que vous avez si joliment écrite. Et pour introduire vos propos, vous avez choisi de nous faire partager un très joli lead de Schubert, interprété par l'immense talent de Barbara Streisand, Auf dem Wasser zu singen.
Winket uns freundlich der der rötliche Schein unter den Zweigen des östlichen Haines. Säuselt der Kalbus im rötlichen Schein unter den Zweigen des östlichen Haines. Säuselt der Kalbus im rötlichen Schein. Freude des Himmels und Ruhe des Haines atme die Seele mehr.
Dans le roman de la vraie histoire de la femme sans tête, Juliette, pourquoi avez-vous choisi la Bourgogne? Et puis, quel portrait dressez-vous de la Bourgogne et des Bourguignons?
Il faut savoir qu'en tant que Belge, ça signifie évidemment que je suis bourguignonne aussi, parce que dans l'histoire, nous avons été bourguignons pendant plusieurs siècles.
C'est bien vrai.
Il en reste une chose très importante, c'est qu'en Belgique, on adore le vin. Et on aime spécialement le vin de Bourgogne. On n'a rien, on ne crache pas sur le Bordeaux tout de même, mais le Belge va être instinctivement dirigé, son goût va le porter au vin de Bourgogne. C'est une affaire évidemment de goût, mais c'est aussi une affaire culturelle. Nous avons été bercés, on a été biberonnés au vin de Bourgogne depuis des siècles, et quand on voit l'ancienne Bourgogne, c'est déjà encore aujourd'hui, la Bourgogne a une forme très particulière, parce qu'elle va du nord au sud, dans des paysages, des géographies très différentes les unes des autres. Ici, la région de Dijon et la région de Chablis ne se ressemblent pas du tout.
Absolument, oui.
Et puis, ça montait jusqu'à la Flandre, en Belgique, qui ressemble encore moins à la Bourgogne, à la Bourgogne d'ici. Mais ça n'a pas empêché une unité culturelle de se faire en Belgique. Ce qui fait que, pour moi, voilà, si je suis en Bourgogne, je suis un peu chez moi. Et j'ai des affinités... sans doute historique, hein, et à mon avis c'est subliminal, parce que j'ai peut-être eu une vie antérieure en tant que bourguignonne au XIVe siècle, ça j'en sais rien, mais ce n'est pas impossible si on croit aux vies antérieures. Mais il y a certainement entre les Belges et les bourguignons des affinités, la plus grande étant évidemment la gourmandise et le vin.
C'est très drôle ce que vous dites, car lorsqu'il m'arrive, je suis allé à Bruges, je suis allé plusieurs fois en Belgique, et lorsque je vais en Belgique, je me dis aussi que quelque part, je suis un peu chez moi, puisque je suis d'origine bourguignonne, évidemment. Et quel portrait dressez-vous de la Bourgogne et des Bourguignons? En vous lisant, en fait, en lisant la vraie histoire de la femme sans tête, j'avais parfois un petit peu le sentiment que vous poussiez le trait, vous décrivez des personnages au nez bien, bien rouge, grand buveur devant l'éternel, un peu... Quel portrait vous dressez? Alors, ça fait partie de votre humour, évidemment.
Oui, ben, pour moi, les Bourguignons sont comme les Belges de bons vivants.
Voilà.
Hein, donc, le nez rouge, ben, les Belges, nous aussi, on est des bons vivants. On aime manger, on aime boire, la bière, mais le vin aussi. Et puis aussi, le paysage de... Bon, pas nécessairement la Flandre, mais la partie francophone de la Belgique est un paysage très vallonné avec des forêts. On a même des vignes en Belgique. Et ce n'est pas nouveau, bon. Avec le réchauffement climatique, ces 20 dernières années, les vignobles se sont développés. Mais déjà dans les années 80, nous avions un microclimat belge qui produisait du vin. Et dans le Limbourg, le nord de la Belgique, au sud de Maastricht, en Hollande, il y a aussi quelques vignobles. Donc c'est confidentiel par rapport à la France, mais on fait du vin en Belgique, à la française. Et voilà d'où les affinités, d'où ma sympathie pour la Bourgogne, outre le fait que les paysages sont absolument ravissants. Voilà, il y a tout ce qui me plaît, il y a l'eau, il y a la forêt, il y a les collines, il y a des lacs, tout des paysages qui me parlent énormément.
Très bien. Surtout, un autre sujet, vous faites porter un handicap à ce valeureux employé des eaux et forêts, puisqu'il a un pied beau. Et puis on reparlera tout à l'heure évidemment aussi de votre roman « Mémoire d'une jument ». Mais j'ai l'impression que la différence est quelque chose un sujet important pour vous.
En l'occurrence, le pied beau, il avait deux raisons. D'abord, le pied beau, c'est un handicap ancien, parce qu'apparemment aujourd'hui on n'en parle plus, ou alors ça a changé de nom, ça a peut-être un nom plus scientifique. Mais le pied beau, c'était quelque chose d'assez banal dans les siècles précédents. C'était une jambe plus courte que l'autre, je crois, qui induisait une boiterie, qui n'était pas un handicap gravissime. On n'était pas en chaise roulante, on pouvait quand même marcher, mais il fallait une canne, etc. Mais moi, j'ai aussi choisi de faire mon héros handicapé, tout simplement pour qu'il échappe à la conscription des guerres napoléoniennes, puisque l'histoire se passe en 1810. Donc, pour qu'il ne soit pas déserteur, il fallait qu'il ait une bonne raison pour exercer légalement un travail. Et là, donc, puisqu'il a un pied beau, il n'est donc pas apte à la marche, puisque les grenières de Napoléon, c'est connu, étaient pour la plupart des fantassins, qui en plus étaient des fantassins qui devaient marcher des distances incroyables. On n'a plus jamais pu, par la suite, recréer une armée qui avait une force de marche comme l'armée de Napoléon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on disait que Napoléon était petit. Napoléon, il avait une taille tout à fait normale pour son époque, mais il choisissait ses grenières sur la taille, parce qu'il fallait que ce soit des géants pour qu'ils aient cette force de marche de... je ne sais pas combien de centaines de kilomètres par jour. Centaines, j'exagère peut-être, mais il marchait en tout cas énormément, même par rapport à notre époque où le sport est plus performant qu'avant. Donc forcément, il fallait quelqu'un qui soit faible physiquement pour être un héros de l'histoire qui ne soit pas un hors-la-loi.
Très bien. Dans ce conte imaginaire où la faune aquatique se voit dotée des pouvoirs d'une pensée à valeur humaine et de la faculté de la parole, l'humain, en l'occurrence notre fonctionnaire, se met à la portée de l'animal et il adopte son mode de vie. Le roman, je l'ai déjà dit, joue avec l'étrangeté, l'allégorie. Mais alors, est-ce qu'il s'agit, Juliette, d'une ode à l'écologie et au respect de la nature? Et qu'est-ce que vous voulez transmettre au lecteur?
Aujourd'hui, respecter la nature, ce n'est plus une option. Nous y sommes obligés. Ce n'est pas comme au XIXe siècle. Nous ne sommes pas encore à la révolution industrielle. Elle va bientôt commencer, mais pas encore. À l'époque, on avait le choix d'aimer la nature ou pas, ou d'être un citadin. Aujourd'hui, dire « Oh, moi, la nature, je m'en fous », je veux dire, c'est une aberration, parce qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Mais j'ai utilisé cette approche de la nature pour pouvoir faire parler les animaux au sujet de l'être humain. Parce qu'évidemment, si les animaux pouvaient parler, ce qu'ils diraient des êtres humains ne serait sûrement pas très glorieux. Et d'ailleurs, je n'ai rien inventé, ça s'est fait bien avant. Et Voltaire le premier avait dit que si les animaux pouvaient parler, nous ne les mangerions sûrement pas. Il n'avait pas tort. Parce que voilà, les animaux nous renvoient nos propres travers, notre cruauté. Nous sommes quand même le prédateur sur Terre le plus cruel de tous. Même le T-Rex était moins cruel que nous. Donc voilà.
Et comme le personnage principal, au fond, finit par refuser la soupe de poisson si bien préparée par sa gouvernante.
Parce qu'il a pu converser avec des poissons, il s'est rendu compte que ces poissons étaient des êtres vivants, dignes d'intérêt et des êtres sensibles, et qu'on n'a pas envie de manger un être sensible. Churchill lui-même, qui avait des poules, disait « Moi, je ne mange pas de poulet, je ne mange pas mes amis ». Donc voilà.
Cette faune aquatique bourguignole est-elle un appel aussi à l'acceptation de la diversité des cultures, chère Juliette? Je pense notamment à la présence de la carpe originaire du Japon et au brochet anglais que j'adore par-dessus tout. Et je l'aime tellement d'ailleurs que j'ai choisi de vous lire un petit extrait de la vraie histoire de la femme sans tête. C'est dans un des derniers chapitres qui s'intitule « Une bonne tasse de thé ». Oh, Mr. Human and Mrs. Fish, plaisanta le brochet en venant vers nous. Puis, avisant ma tenue très légère. « Je vois que nous avons sorti le maillot de bain. »« Très petit, certainly, mais smart, really, » rit-il de toutes ses dents acérées de requin d'eau douce. « Puisque nous ne sommes pas très loin de chez moi, je vous invite. Que diriez-vous d'une nice cup of tea ?»« Pour changer de scones, j'ai fait des crumpets, avec un peu de marmelade de roseau. Ce sera delicious. » Voici ce petit extrait. Moi, j'ai adoré le brochet anglais. Je voulais lire un petit extrait de votre roman. Et puisqu'il est question du Japon, chère Juliette, laissons-nous bercer à présent par une belle chanson traditionnelle intitulée « Sakura ». Alors, chère Juliette, cette faune aquatique, disais-je, bourguignole, est-elle un appel à l'acceptation de la diversité des cultures ?
Mais certainement, parce que beaucoup de personnes sont frileuses, voire paranoïaques au sujet de l'introduction de cultures étrangères. Mais à partir du moment où on garde la sienne et surtout où on partage la sienne avec l'étranger en question, ça devient un échange et un enrichissement pour les deux parties. Donc voilà. Accepter la culture de l'autre, c'est accepter de s'enrichir, au lieu de croire que nous allons être bouffés par l'autre. Toutes les personnes qui craignent les anglicismes à excès oublient que les anglophones utilisent énormément de mots français en anglais. Et ça, qui ne parle pas anglais ne s'en rend pas compte. Donc il y a une espèce de bonne moyenne de 50-50 ou de 50-50, pour parler les deux langues, qui fait que personne n'est perdant et personne n'est gagnant. Ou plutôt, tout le monde est gagnant.
Vous tenez un discours fort honorable, mais vous vous rendez compte aussi que nous sommes malheureusement aujourd'hui un petit peu à contre-courant dans la société. Hein. C'est-à-dire qu'on commence à avoir peur de l'autre, voire même parfois la haine de l'autre. Comment est-ce qu'on peut changer, alors ça serait un grand sujet, mais comment est-ce qu'on peut changer la société pour revenir effectivement vers des valeurs plus humanistes.
Il faut savoir que la peur de l'autre et la haine de l'autre, ce n'est malheureusement pas un fait de notre époque. Ça existe, je crois, depuis que les hommes des cavernes regardaient les gens de la tribu d'en face avec méfiance. L'être humain s'est toujours méfié de son prochain, comme certains animaux même. Certaines hardes d'animaux peuvent se méfier de la harde voisine. Mais il y a, moi je suis de la personne très optimiste, il y a toujours des grands esprits ou tout simplement des bons esprits. Pas besoin d'être un grand intellectuel, mais simplement une personne de bonne volonté pour freiner cette tendance naturelle, animale et humaine de se méfier d'abord avant de s'approcher de l'autre et avant d'apprendre à le connaître. Donc se méfier sans savoir. Donc voilà, moi j'espère que les bonnes volontés, les bonnes âmes triompheront, comme elles l'ont souvent fait d'ailleurs par le passé, même si nous ne vivons pas dans un monde parfait. Mais je ne pense pas que nous soyons au bord du désespoir, même si c'est vrai que la situation actuelle ne fait pas rêver.
Dans le roman, vous opposez le gnome, ce gnome que vous décrivez avec des mots vraiment très, très... voilà, il est laid, il est moche. Et donc, vous l'opposez à la jeune fille. Est-ce que vous souhaitiez opposer le beau et le laid, et puis le bien et le mal ?
C'est un conte. Donc dans les contes, forcément, il y a des méchants très méchants et des gentils très gentils. Donc là, oui, c'est du pur manichéisme, mais on aime bien un petit peu rajouter des bons et des méchants dans une histoire, surtout si c'est destiné à la jeunesse. Faire des personnages plus nuancés, c'est pour s'adresser à un public un peu plus âgé. Quoique la nuance, aujourd'hui, les jeunes l'apprennent malheureusement de plus en plus tôt. Hein, puisque l'enfance est devenue plus courte qu'avant, paradoxalement, même si la vie est devenue plus longue en termes d'années et d'espérance de vie, les enfants sont malheureusement adultes beaucoup plus tôt, parce qu'avec les réseaux et le harcèlement sur les réseaux notamment, le paradis de l'enfance est beaucoup plus vite évacué, et ça c'est terrible.
Oui. Très bien, nous allons évoquer aussi le deuxième roman que j'ai lu, Mémoire d'une jument, Mémoire au pluriel. Et comme dit au début de cet entretien, vous êtes passionnée d'équitation, Juliette. Votre écriture le reflète d'ailleurs superbement dans ce roman. Nous entrons dans le récit par une naissance, celle d'une petite pouliche dont nous savourons les premiers instants dans le monde. Surtout si nous sommes attachés d'ailleurs à la vie à la ferme, comme je le suis, fils de paysan. Cette petite pouliche baptisée la Roja, par un fermier peu scrupuleux et obsédé par l'appât du gain, apprend à grandir auprès de sa mère. Alors, ses tout premiers instants sont une torture, il faut bien le dire. Pensez donc qu'elle vient de sortir du ventre confortable de sa mère et elle découvre le monde. Mais la pénibilité de la vie laisse place à la douceur et elle découvre son environnement, les prés fleuris, les senteurs, la douceur du soleil sur son cuir. Et puis... patatras, c'est le retour à la douleur, à l'insupportable vie liée au labeur des chevaux qui tracent des sillons dans les champs à coups de cris et de fouets. Vient la séparation avec sa mère, jument, qui rejoint le paradis des chevaux, mais elle donne naissance, la Roja, à deux beaux poulains, dont l'une périra car trop fragile, et l'autre sera vendue pour le gain. Le destin de la Roja est-il alors définitivement scellé ? Nous allons le voir. L'histoire se déroule en tout cas au XVIe siècle en Espagne. Et justement, de quoi ou de qui est inspiré ce récit ?
C'est très facile à deviner. D'abord, le tout début du XVIIe siècle, c'est l'époque de Cervantes, c'est l'époque de Don Quichotte. Il faut savoir que j'avais écrit deux années auparavant un essai appelé l'Éloge du cheval chez Albin Michel, où je racontais ma vie avec les chevaux, donc depuis mon enfance jusqu'à mon âge adulte. Et j'avais effleuré le sujet Don Quichotte et Rocinante, mais seulement je n'en avais parlé que pendant un paragraphe parce que c'était un livre de petit volume et je ne pouvais pas trop m'étendre là-dessus. Et j'avais été un petit peu frustrée en me disant « mais Rocinante mériterait qu'on s'attarde un peu plus sur elle ». Et puis 2 ans après, les éditions Lattès me commandent un roman animalier axé sur le cheval et je me suis dit « mais ça c'est un pont d'or qu'on m'offre, je vais enfin pouvoir parler de Rocinante autant que je le veux et lui inventer la vie ». Qu'elle n'a pas eu dans le roman, même si, il faut vraiment le souligner parce que c'est quelque chose de très unique pour l'époque, j'ai évidemment lu et relu Don Quichotte, pas une fois cette jument n'est maltraitée par son cavalier Don Quichotte, et pas une fois non plus elle est mésestimée.
Exactement.
C'est pourtant une vieille carne, hein, c'est connu, mais Don Quichotte la voit comme un cheval de paladin. il se voit lui-même comme un chevalier, mais il voit sa jument comme une noble, elle aussi. Mmh. Donc il la magnifie à travers son regard. Elle fait quelques conneries, comme les chevaux peuvent faire, parce que c'est un animal quand même qui est très lunatique. Eh bien, quelle que soit la bêtise qu'elle fasse ou qu'elle fait, il l'excuse. Il dit, mais voilà, c'est parce qu'elle a eu des désirs de grandeur, elle a voulu se défendre, etc. Et pas une fois, Cervantes ne parle mal de la jument. Simplement, il n'en parle pas assez, à mon goût. Elle est effacée au profit de Don Quichotte, qui, on comprend, qui est le motif principal du récit. Et aussi, les autres motifs principaux, c'est de toucher un peu à tout. C'est ça qui est un miracle dans ce roman, c'est que Cervantes en profite de parler de tous les sujets qui lui tiennent à cœur, l'armée, la religion, l'agriculture aussi, la conscription, les galériens, les prisons, les lois dans les villes, l'amour, bien sûr.
J'allais dire, enfin, en tout cas, dans votre roman, entre l'ex-Rora oui. et la nouvelle Rocinante, et Don Quichotte, un amour quasi fusionnel entre les
mais
deux.
Mais là, je ne l'ai pas vraiment inventé, parce que Don Quichotte est inséparable de sa Rocinante. D'ailleurs, mmh. il suffit de voir tous les tableaux comme celui de Dali ou d'autres peintres. Don Quichotte est très rarement représenté sans sa Rocinante. Rocinante est même devenu un nom commun aujourd'hui. Donc, mmh. C'est quelque chose qui n'est pas du tout... C'est un animal qui n'est pas du tout anecdotique. C'est vrai qu'elle a quand même sa place dans le récit, mais il y avait moyen d'en dire plus. Ce n'est pas un personnage déshérité, mais... À mon goût, voilà, elle aurait pu recevoir un peu plus de description, ne fût-ce que son avis, parce que c'est vrai qu'on ne lui demande pas son avis dans le roman.
Et justement, comment avez-vous imaginé le double visage de cette jument, la Roja, à la fois pour la rendre crédible en tant qu'animal et suffisamment humaine pour porter un récit de mémoire et de réflexion? Pourquoi cette dualité et...
Le cheval, jusqu'aux années 50 ou 60, était considéré comme un animal splendide, mais foncièrement idiot. Qui ne fonctionnait qu'à la schlag parce que c'est tout ce qu'il comprenait. C'est ce qu'on pensait aussi des enfants. Hein. Remarquez, les enfants ne fonctionnaient qu'à la baguette.
Ce n'est pas faux.
Voilà. Et puis un jour, dans les années 60-70, un ancien enfant battu, qui était cow-boy aussi, a découvert que non, les chevaux n'étaient pas, d'abord pas si bêtes que ça, et que surtout, si on les prenait par la douceur, non seulement ça marchait tout aussi bien, mais ça marchait mieux. Et que le cheval ne parlait pas seulement oui ou non, au trot ou au galop, mais que le cheval pouvait comprendre jusqu'à une soixantaine de mots, ce qui est le vocabulaire d'un enfant de 5 ans. C'est quand même énorme. C'est ce fameux cow-boy qui a inventé l'expression « l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux », qui est aujourd'hui grandement pratiquée, mais qui était à l'époque considérée comme un hurluberlu. Moi-même, qui ai fait de l'équitation dans les années 70, on en était encore à l'époque où « montre qui est le maître », hein, « montre à ton cheval qui est le maître », et si tu et ne te laisse pas faire, et tu lui donnes un coup de cravache pour lui montrer qui est le chef. Aujourd'hui, je pense qu'on n'enseigne plus du tout l'équitation comme ça, et je me demande même si la cravache et les éperons ne sont pas bannis, ou en tout cas utilisés uniquement pour la parade, dans les parades d'officiers, ça fait partie de l'uniforme, c'est très beau un éperon, mais l'éperon ne pique plus guère. Donc voilà, pour en revenir à Rocinante, je voulais la faire parler pour montrer un peu que c'est vrai que la vie d'un cheval avant, c'était une vallée de larmes, encore aujourd'hui sans doute, hein, notamment les certains véganes réagissent contre l'équitation parce que c'est un métier que le cheval n'a pas choisi. Personnellement, en tant que cavalière qui connaît bien les chevaux, je nuance un petit peu. Certes, le cheval n'a pas choisi sa servitude, mais il a en lui des gènes de jeu. Parce que des chevaux qu'on laisse tout seul dans une prairie, ils font ce qu'ils veulent à ce moment-là. Mmh. Ils n'ont pas d'ordre à recevoir de personne. Non seulement ils jouent ce qu'on fait, ils font des bonds. Donc comme un saut d'obstacles, s'il y a des obstacles dans la prairie, ils vont sauter par-dessus, personne ne les y a forcés, et ils vont faire la course naturellement parce qu'il y a un désir d'émulation. Ce sont des animaux qui veulent montrer à leurs semblables, moi je vais plus vite que toi par exemple, ou je suis plus fort que toi, ils vont se battre aussi. Donc dire que c'est un esclavage, c'est à la fois vrai et pas vrai, il faut nuancer, même si c'est vrai que les animaux ont moins de choix que l'être humain, sauf certains êtres humains qui aujourd'hui n'ont pas plus le choix que les animaux, il faut bien le souligner.
Après, quand vous parlez de servitude et d'esclavage, je pense quand même aussi, vous qui connaissez bien le monde de l'équitation, à ces chevaux que l'on faisait descendre dans les mines et qui souvent d'ailleurs revenaient sur terre, à la surface du sol, totalement aveugles parce qu'ils avaient passé des mois et des mois dans les mines.
Mais c'est le fameux bataille de Germinal de Zola.
Voilà.
Bataille, il ne remonte même pas. Bataille, il a été descendu à je ne sais combien de pieds sous terre. Il est là pour tirer les chariots de charbon. Et puis le soir, quand les mineurs rentrent chez eux, ben, le cheval, il reste sous terre. Donc il ne verra plus jamais le ciel. Je me rappelle que ça m'avait déchiré le cœur quand j'avais lu le roman à 13 ans, parce que j'imaginais que ce cheval ne verrait plus jamais un brin d'herbe ou une prairie, qui vivait dans le noir pour toujours.
Oui.
Et ça, c'était un esclavage aussi grave que celui qu'on faisait subir aux humains mineurs, qui étaient des esclaves aussi. Ils avaient des salaires, mais le salaire était versé par la mine et dépensé au village qui appartenait à la mine. Donc...
Oui, oui, puis ils étaient exploités dans un...
Voilà.
Cette belle jument devient Rossinante, donc à la faveur d'une rencontre qui bouleverse son existence, je parle de la Roja, et ayant un lien fort avec ce Don Quichotte, humain, respectueux, tendre et sauveur aussi, elle goûte à sa nouvelle condition avec délice, profite de chaque instant qui lui est donné, et puis mord la vie à pleines dents. D'ailleurs, dans son quotidien, métamorphosé, flotte comme un air de « Emmenez-moi ».
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont, pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 la.
Chère Juliette, une question me taraude au sujet de Mémoire d'une jument. J'ai bien lu le roman dans son intégralité. Pourquoi avoir changé le sexe de la jument dans la seconde partie du roman ? Et qu'est-ce que le masculin apporte au récit ?
Je suis quelqu'un de très opportuniste et quand on m'offre quelque chose sur un plateau, je le saisis. Selon les traductions en français, Rossinante est tantôt un mâle, tantôt une femelle. En français, c'est vrai qu'on a toujours dit c'est une Rossinante. Mais voilà, en étudiant le sujet, j'ai vu que ce n'était pas nécessairement le cas. On parle d'un roussin. Le roussin, c'était le cheval de guerre. Donc, c'est le cheval qui est fait pour se battre, qui n'est pas le cheval de parade. Et je me suis dit, on va jouer sur cette dualité, puisque d'un roman, d'une traduction à l'autre, c'est un mâle ou une femelle. Moi, je vais prendre les deux. Et je vais comme ça pouvoir servir mon propos pour changer ces deux vies, la vie d'avant, connaître Don Quichotte et la vie d'après. Donc, c'est une jument qui a été martyrisée. Mais entendons bien, elle a été martyrisée comme l'était n'importe quel animal de l'époque, soit un animal de guerre ou un animal de trait ou de labour. Ce paysan paraît cruel, mais tous les paysans étaient comme ça, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de tracteur et qu'à l'époque, on prenait des bêtes de somme. C'était des mules, c'était des bœufs, c'était des chevaux, et qu'il y avait un fouet pour les faire avancer. Et que le travail était pénible, mais il était pénible pour le paysan aussi. Le paysan avait peu d'argent, donc il ne pouvait pas nourrir ses bêtes comme il l'aurait voulu parce que lui-même ne pouvait pas nécessairement nourrir sa famille. La condition de paysan, la condition de pauvreté était grande, surtout en l'Espagne du XVIIe et du XVIe siècle. Donc, elle a été maltraitée, mais elle a été quelqu'un qui s'est rebellé contre la maltraitance. Beaucoup de personnes acceptent jusqu'à leur mort d'être traitées comme des esclaves, même la majorité des gens, que ce soit aujourd'hui ou dans le passé. Mais certains individus refusent. Ce sont les Spartacus de l'histoire. Et Rossinante n'est qu'un nouveau Spartacus qui, tout d'un coup, a compris qu'elle est dans un monde quand même, à son époque, un monde d'hommes. Elle a bien compris que sa petite fille, sa petite pouliche, n'a pas été soignée par un vétérinaire. On l'a euthanasiée parce qu'elle était trop faible.
Et puis elle ne comptait pas.
Et puis simplement qu'on n'a pas demandé son avis à Rossinante pour être saillie par un étalon. Simplement, donc la condition féminine, que ce soit jumentine ou féminine de l'époque, on ne donnait pas beaucoup le choix.
Oui.
Donc elle décide tout simplement, mais puisque dans ce monde de femmes je n'ai rien à dire, je serai un mâle. Parce que l'étalon mâle, quand il est venu me saillir, après ses propriétaires l'ont félicité. Et moi on ne m'a pas félicité de m'être laissé faire. Et alors elle décide, puisque je deviendrai un homme. Alors aujourd'hui, si on change de sexe, ce n'est pas, j'ose espérer que ce n'est pas parce que la condition féminine est trop retardataire.
J'espère aussi.
Voilà, c'est encore malheureusement le cas dans beaucoup de domaines. Mais elle change de sexe parce qu'elle veut enfin ne plus être traitée comme une esclave. Et le fait de changer de sexe et de devenir un mâle lui donne cette force de caractère, à défaut de la force physique qu'elle n'avait pas à la base, assez de force de caractère pour être la jument d'un héros de légende.
Vous parlez de Don Quichotte merveilleusement bien. Et puis vous parlez aussi du rapport qu'il a aux autres, du rapport qu'il a au monde, par la personnalité qu'il a, son goût pour l'aventure, pour les aventures, etc. Mais vous parlez aussi, cela m'a beaucoup touché, de la moquerie des autres par rapport à cet homme qui, au fond, n'est pas comme les autres. Et j'ai choisi un petit extrait que je vais vous lire maintenant, et puis on en parlera après. « Ces flatteries, que dis-je, ces railleries grossièrement déguisées en flagornerie, finirent par lasser Quichotte. Si noble fut son attitude. Ce ne fut ni l'épuisement physique dû à ses batailles, combats ou simples bagarres, encore moins les quelques défaites qu'il essuya à la fin de sa carrière, pas même les années qui l'avaient néanmoins rendu plus faible et chenu qui usèrent mon chevalier. Ce furent bien ses quolibets silencieux. Désenchanté, il retourna chez lui au village, rentra dans le rang et tomba malade. Cet être exceptionnel n'était en rien semblable à ses contemporains, c'était évident. Les héros le sont-ils jamais, quelle que soit l'époque qu'ils sillonnent de leurs hauts faits et remarquables comportements? Avec de la chance, ils ne seront qu'incompris. En général, ils sont moqués. C'est le sort que nous connûmes durant notre chaotique existence, lui et moi, raillés pour notre aspect, notre prétendue folie, notre différence. » Moi, j'ai adoré ce passage, notamment, et votre réflexion sur la santé mentale de cet homme, si on peut le dire ainsi, valeureux chevalier qui croit à ses rêves, tout cela est très émouvant. Mais là aussi, je trouve encore une fois, pardon d'insister, mais vous effacez les différences pour montrer ce qu'il y a de plus beau et de plus fort en chacun des êtres. Au-delà de Rossinante, que vous mettez en avant, ne cherchez-vous pas, chère Juliette, également à réhabiliter le personnage de Quichotte, souvent présenté comme un farfelu, un homme qui poursuit des rêves inaccessibles?
Comme Flaubert avait dit Madame Bovary, c'est moi, Quichotte, c'est chacun de nous. On a tous un Don Quichotte en nous, des désirs de gloire, d'héroïsme, de mener une vie surnaturelle, une vie au-delà de notre condition. C'est un pan que nous vivons dans nos rêves le plus souvent, hein, dans nos rêves ou dans nos cauchemars. Ça fait partie de vouloir s'élever du quotidien, et c'est aussi quelque chose qui n'était pas propre à la période de Cervantes, mais qui est propre à toutes les périodes de l'humanité. On est tous quelque part différents, et quelque part aussi, on est tous souvent moqués quand nous montrons notre différence. Dès qu'on sort une idée un peu originale, la plupart des génies, qu'ils soient scientifiques ou qu'ils soient philosophes, etc., ou que ce soit des arts plastiques, hein, un sculpteur, un peintre qui a peint une peinture tout d'un coup différente, comme les impressionnistes, comme les cubistes, etc., ils ont commencé par être moqués. Donc on est très vite moqué dans notre civilisation, et on est aussi très vite considéré comme fou. Dès qu'on n'est pas exactement dans le rang, même si on ne vit pas dans un régime totalitaire, mais où on a la liberté d'expression, on est tout de suite traité de fou. Donc Quichotte n'est qu'un fou parmi d'autres. Alors, il a eu la chance d'être traité par le grand Cervantes, qui en fait ce héros merveilleux et très attachant qu'on connaît, même s'il y a des côtés risibles, parce que quand il parle d'amour, bon, forcément, il est amoureux d'une personne qui est une paysanne qui n'est même pas amoureuse de lui, qui ne connaît même pas le Don Quichotte en question. Mais voilà, il a sublimé une personne qu'il a croisée au détour d'un chemin. Cet homme a une imagination merveilleuse, je ne sais pas moi, de croiser une souillon et d'en faire une princesse. Hein? Alors, plutôt que de se moquer de lui en disant qu'il est fou, de se dire, mais cet homme, il a vu peut-être le tout petit fragment de beauté qui réside en chaque être, et que cette paysanne peut être laide et difforme et stupide et inéduquée, comporte malgré elle une part de beauté, et lui, il l'a vu, que les autres, que son entourage n'aura même pas distingué.
En disant cela, vous me faites penser à ce courant artistique de l'art brut, et des personnes fort singulières au départ, et qui pourtant ont réalisé des œuvres magnifiques, qui souvent étaient raillées, moquées. Je pense notamment à un musée, puisqu'on parle de la Bourgogne, le musée de la fabuloserie, dans la petite ville, petit village de Dissy, plutôt, dans l'Yonne. Et un monsieur qui était garçon vaché, qui était polyhandicapé, qui en fait était raillé, moqué par tous les enfants et tous les adultes du village, du plus petit au plus grand, et qui a créé le manège de Petit Pierre dans ce superbe musée, que vous avez peut-être eu l'occasion déjà de voir, ou sinon que je vous conseille d'aller voir. C'est magnifique, ce manège est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui, et cet homme était vraiment raillé. Il avait même prévu dans son manège un petit clapet qui s'ouvrait, et il disait aux enfants « Approchez-vous et regardez la surprise, et appuyez sur le bouton », et les enfants appuyaient sur le bouton, et de l'eau leur giclait dans les yeux. Donc oui, vous me faites vraiment penser à l'art brut en parlant aussi de cela. C'est une petite parenthèse, mais qui mérite dans notre échange culturel d'être annoncée. Oui, Don Quichotte, en fait, poursuivait quelque part une inaccessible étoile, comme le chantait d'ailleurs si bien notre cher Jacques Brel.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre, à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.
La vraie histoire de la femme sans tête s'adresse d'abord à un lectorat jeune, même si on peut le lire aussi quand on est adulte, alors que Mémoire d'une jument touche aussi un public adulte. J'étais sincèrement très touché par la lecture de ces deux romans. Ces deux livres n'ont-ils pas le goût pour le conte comme trait d'union, chère Juliette? Et je me suis interrogé de savoir pourquoi vous accordiez aussi autant d'importance à l'écriture contée.
Tout simplement, de manière biographique, le conte est le premier genre littéraire que j'ai abordé sous forme de lecture par les parents, et comme c'est le cas pour beaucoup d'enfants. Mais c'est aussi le premier genre littéraire que j'ai pratiqué, petite, parce que écrire un conte, c'est quelque chose qui est un mécanisme qui est très vite facile à adopter pour un enfant, parce qu'il y a un savoir-faire. On sait déjà que ça commence par « Il était une fois » et que ça doit, dans nos contrées occidentales, finir bien. Parce que, par exemple, en Asie, au Japon, par exemple, une histoire qui finit bien, même pour un enfant, c'est une histoire ratée.
Ah, voilà. Donc, au Japon, donc, on ne pratique pas le « Ils vécurent heureux »
Ah oui,
et
non,
beaucoup
non,
d'enfants.
Non. Ça finit mal, alors c'est une pièce de génie. Donc voilà. Après, on a une grande liberté entre le « Il était une fois » et « Ils vécurent heureux », si ce n'est que c'est plus amusant de mettre du fantastique. Mais bon, maman nous avait lu beaucoup de contes, papa aussi. Mais voilà, c'est un genre dans lequel on peut vraiment mettre ce qu'on veut. On n'est pas obligé de coller à la réalité. Et un enfant n'a pas envie de coller à la réalité, parce qu'il a déjà ça tous les jours quand il va à l'école, il n'a pas choisi d'aller à l'école. C'est contraignant, voilà, ce n'est que plus tard qu'il peut plus ou moins choisir le métier qu'il va faire, quand il a de la chance, bien sûr. Donc voilà, je crois que c'est simplement une espèce de retour aux sources, parce que le conte permet d'aborder les sujets d'une manière à la fois naïve, un peu comme l'idiot du village, en disant... faisant une réflexion qu'on ne pourra pas se permettre dans un livre entre guillemets adulte.
Très bien. Chère Juliette, j'aurais aimé pouvoir vous accueillir ensemble avec Amélie à Radio Shalom Bourgogne, mais bien entendu ce n'était pas possible car votre visite à votre sœur était une surprise qu'il ne fallait pas dévoiler. Néanmoins, j'aimerais avoir votre regard sur deux œuvres récentes qui vous concernent toutes les deux. Comment avez-vous reçu et apprécié le dernier roman d'Amélie Nothomb, Tant mieux, que je conseille d'ailleurs vivement à nos auditeurs, tout comme les livres que vous avez écrits?
Tout simplement parce que ce livre retrace la vie de notre maman, que nous avons perdue il y a bientôt 2 ans, le 10 février 2024. Il faut savoir que depuis notre plus tendre enfance, nous avons eu la chance d'avoir des parents merveilleux, mais nous étions avec notre mère d'une proximité absolument extraordinaire. Je me rappelle que déjà, quand on était toute petite, on pleurait le soir dans notre lit en se disant qu'un jour, elle mourrait.
Ah oui.
On n'avait que 6 ans, mais déjà, on prévoyait ça comme le drame, comme l'apocalypse. Bon, si on avait su qu'on avait encore du temps devant nous, on aurait moins pleuré, mais voilà. Ce qui fait que la vie et la mort de notre mère ont été un sujet qui a bercé toute notre existence et même notre âge adulte. En tant que fils de diplomate, on a beaucoup voyagé avec eux, mais une fois qu'on a été adulte et qu'on a vécu de notre côté, on a été sevrés de nos parents. Et autant la plupart des enfants sont contents quand ils ont 18 ans de quitter le nid, nous, quitter le nid, ce n'était pas du tout un choix. Et ça nous a quelque part traumatisé, est un bien grand mot que je n'utiliserai pas, mais beaucoup attristé de couper ce cordon que nous avons toujours maintenu et que ma mère a maintenu tout au long de notre vie. On a toujours été ses petites, même quand on était quinquagénaire. On est toujours le petit de quelqu'un, hein, remarquez.
Oui.
Et on est toujours le vieux de quelqu'un et le jeune de quelqu'un, voilà.
Oui.
On était extrêmement proches avec ma maman. C'était pas aller manger le dimanche à la maison, c'était se téléphoner tous les jours. Quand on ne se téléphonait pas, on s'écrivait. Ma mère était une grande épistolière, une grande faxeuse. Quand le fax est arrivé, bon, elle n'a jamais pu se convertir au mail. Ça n'a pas marché. Mais voilà, ce qui fait que ma maman, c'était quelqu'un du quotidien. Même à mon âge très avancé, même il y a 2 ans, quand elle est tombée malade, il y a plus de 2 ans, mais je me suis occupée d'elle à la fin de sa vie, elle a fait partie de mon quotidien pendant très, très, très longtemps. Et ce brusque départ, même s'il était prévisible, nous a fortement affectés, comme tout enfant orphelin qui aime ses parents. On n'était pas plus à plaindre que n'importe quel autre enfant qui perd ses parents. Mais dans ce cas de figure, nous étions 2, nous sommes même 3, avec un frère aîné qui adorait notre mère aussi et qui était aimé d'elle, parce que nous avions une très bonne mère qui aimait ses 3 enfants profondément. Et nous avons cette solidarité et qui a été relayée en plus par le roman de ma sœur qui a vraiment rendu hommage à ma maman, qui le méritait, parce que autant mon père a une vie très très retentissante, il a quand même été, il a sauvé une prise d'otage dans les années 60 au Congo, il a été un héros de guerre, il a été invité par le roi en Belgique, il a eu vraiment ce qu'on appelle son heure de gloire, et puis en tant qu'ambassadeur à la fin de sa vie, c'était quand même un être très très respecté. Hein, quand on vous traite d'excellence, vous êtes une excellence, c'est pas n'importe qui. Tandis que ma maman, c'était la femme d'eux, alors qu'elle a participé dans l'ombre à la réussite de mon père. Que ce soit sa réussite professionnelle, mais aussi sa réussite amoureuse, parce qu'ils ont été un couple uni tout au long de leur vie. Et elle était quelqu'un qui n'a pas du tout été amère à ce sujet. N'importe quelle autre personne aurait pu dire, avec tout ce que j'ai fait pour toi, je mériterais ma part. Jamais elle n'a dit, mais moi je voudrais qu'on me respecte comme toi, etc. Elle a toujours tout pris avec bonhomie, avec bonne humeur, avec bon caractère et avec beaucoup de second degré et de détachement. C'était quelqu'un à la fois de très intelligent et de très enfantin, de très basique. Elle avait cette dualité en elle que ma sœur reproduit tellement bien dans le roman. Voilà.
Et le film d'animation que j'ai vu très récemment, Amélie, la métaphysique des tubes, sincèrement, j'ai adoré.
Ce film est un bijou du début
magnifique.
À la fin. Aussi bien du point
magnifique.
De vue des dessins que du point de vue de la musique. La bande originale est absolument magnifique.
Superbe.
La technicité du dessin est tout à fait innovante parce que j'en ai parlé avec des connaisseurs, notamment de manga, mais pas que, mais aussi de dessins animés, des studios Ghibli et pas Ghibli, etc., qui m'ont confirmé que technologiquement parlant, il y a une innovation incroyable.
Les expressions sur les visages
aussi.
Oui,
et puis l'histoire est touchante et très fidèle au roman, ce qui est un chef-d'œuvre, parce que faire d'un film d'enfant avec un livre pour adultes, pour que les enfants et les adultes y retrouvent leur plaisir et retrouvent la beauté du texte, c'est un morceau de bravoure.
Oui. Est-ce que vous êtes reconnue dans le personnage de
Alors,
Juliette?
Alors, pas du tout. Ah. Je suis une blondinette aux yeux bleus, ce que je n'ai jamais été. Je crois que ça, ce sont les auteurs qui m'ont fantasmée comme ça. La seule chose qui me ressemble, c'est qu'à un moment, on me voit plonger dans une BD. Et c'est vrai que j'étais Miss BD tout le temps.
C'est vrai.
Dès que j'avais 2 minutes, c'était des bandes dessinées, plus que même, que je le confesse, plus que des vrais romans et des vrais livres. Mes parents devaient me botter les fesses pour qu'une fois de temps en temps, je lise ce qu'ils appelaient un gros livre.
Allez, dites-moi que vous êtes une passionnée d'Hergé et
des
aventures de Tintin.
Tout, Hergé, Gaston Lagaffe, Lucky Luke, Astérix, tout, on a tout lu. Et nous avions un papa qui lui aussi adorait les BD. Grâce à ça, il en achetait beaucoup et il partageait cet amour avec nous. Voilà.
J'ai une dernière question, Juliette, qui me brûle les lèvres. Dans la vraie histoire de la femme sans tête, une carpe. Dans le film d'animation, des carpes, dont la petite sœur Amélie, en passant, a eu de saintes horreurs. Et entre Amélie, H-A-2-M-E-L-Y-E, et Amélie, que nous connaissons, pourrais-je prononcer la sacro-sainte formule en la modifiant ? Toute ressemblance avec des personnages ou des faits existants ou ayant existé ne serait pas si fortuite.
Elle est tout à fait fortuite, mon cher Frédéric. Je ne vois pas les points communs du tout. Hein.
Vraiment.
Mais il est vrai que La femme sans tête a été historiquement publiée bien plus tard que Métaphysique des tubes. Et je fais évidemment allusion au dégoût des carpes de la petite Amélie dans Métaphysique des tubes. Et j'ai voulu lui faire un petit clin d'œil en reproduisant ce dégoût des carpes avec mon héroïne qui s'appelle évidemment... Alors, mon frère s'amusait à dire « Hamley », mais ça se prononce « Hamélie ». Donc, c'est vrai que dans certains pays d'Asie, ils ont besoin de mettre des consonnes. Et alors, le « Hamélie », ça n'allait pas, il fallait mettre « Hamélie ». Donc, voilà, certaines personnes l'appellent « Hamélie ». Et j'ai fait ce petit clin d'œil, tout
D'accord.
simplement.
Super, très bien. Chère Juliette,
cher Frédéric,
ainsi se termine cet entretien. Oh, hélas, trois fois hélas. Comme le temps passe vite, trop vite, je trouve. C'était en tout cas sincèrement et du fond du cœur un vrai plaisir de passer une heure en votre compagnie. Et je voudrais évidemment vous laisser le mot de la fin.
Le mot de la fin, c'est tout simplement ma reconnaissance infinie de m'avoir laissé pendant une heure et demie pratiquer mon sport préféré dans lequel j'excelle et qui est le bavardage. Et ce bavardage avec vous, cher Frédéric, et vos questions très intéressantes et dont j'espère que les auditeurs y trouveront autant de plaisir que j'en ai eu à l'échanger avec vous.
Écoutez, c'était vraiment un vrai plaisir. C'est un rendez-vous que je ne suis pas prêt d'oublier.
Moi non plus.
Je vous le dis. Et merci encore. Et je vous dis aux chers auditeurs et auditrices, alors je rappelle évidemment qu'ils peuvent lire Éloge du cheval et ils peuvent lire également Mémoire d'une jument, La vraie histoire de la femme sans tête. Vous avez aussi écrit un livre récemment sur la pâtisserie chez Mertz.
C'est ça, c'est la pâtisserie Mère à Lille.
Mère, pardon.
En tant que grande gourmande, je suis fan de cette pâtisserie et j'ai noué avec le PDG de cette pâtisserie une relation amicale très profonde qui nous a permis de faire ensemble ce très beau livre qui est d'une agréable couleur rose, qui est agréable à voir par ces temps morose, justement. C'est drôle d'ailleurs que rose rime avec morose.
Ah.
Voilà, mais ce qui prouve que tout espoir est permis.
Quel beau rendez-vous en tout cas. Merci beaucoup. Ainsi se termine donc j'ai rendez-vous avec vous. Je vous dis à toutes et à tous bye bye et à la prochaine fois.